Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La lumière. L'intégrale. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Voilà, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. C'est bien la dernière fois que je fais ce genre de choses sur un mini-disque, parce que le son est vraiment trop mauvais. Ça ne va pas du tout. Veuillez m'en excuser, mais enfin, c'est, on peut considérer ça comme, disons, un témoignage. Maintenant, place à la création, place à l'histoire. J'ai commencé mon enregistrement à 11h le 1er janvier 2006. Bonne année. Que je ne peux pas vous le dire en 2006, je vous le dirai peut-être en 2012, je ne sais pas quand, mais enfin c'est pareil, bonne année tout de même. Vous voyez, je suis tout seul, il fait soleil, la neige a fondu, il fait plus doux, tant mieux, l'année commence sous un bon signe, en tout cas pour ce qui est de la nature, mais pour ce qui est du reste, ça j'en doute beaucoup. Allez, à la création. Thank you. Les gens disent qu'ils n'aiment pas travailler et lorsque le dimanche arrive, pour la plupart, ils s'ennuient. Il leur arrive même de détester ce jour. Souvenons-nous de cette chanson que chantait Juliette Gréco et cette autre de Charles Trenet. Pourquoi les gens s'ennuient le dimanche? Parce que dans la semaine, ils ont deux vies différentes, ce qui leur permet de supporter leur vie trop pleine de responsabilités, de choses absurdes et répétitives à faire. La semaine, l'homme vit plusieurs rôles. À son travail, il n'est pas le même que dans sa famille. Il a d'autres responsabilités, relations. Il devient le chef, l'homme qui est sûr de lui, apprécié de ses camarades. Il est quelqu'un de reconnu. Chez lui, c'est peut-être le contraire. Sa femme le prend pour un con, ses enfants pour un vieux qui dit toujours non. Bien entendu, il peut y avoir le contraire. L'homme humilié au travail est apprécié en privé. La vie privée d'un homme marié est compliquée. Il doit être le mari et le père, deux rôles différents. Lorsque l'homme est seul avec sa femme, il ne se comporte pas de la même façon que lorsqu'il est avec ses enfants. Sa femme ne comprendrait pas et lui en voudrait. Elle veut en plus quelque chose d'exclusif dans le rapport. Comme la vie privée est plus compliquée que sa vie de travail, ce qui fait que l'homme a besoin de sa vie professionnelle pour la supporter. Or le dimanche, il est englué dans sa vie familiale, pris entre ses enfants et sa femme. Il doit aller de l'un à l'autre. Mais les enfants se sentent moins libres le dimanche, s'ennuient aussi. La femme aussi, parce qu'elle a l'impression d'avoir constamment dans ses pattes quelqu'un. Et puis elle sent que ça l'irrite, que son mari s'ennuie. Elle se dit que s'il s'ennuie près de moi, c'est qu'il ne m'aime pas. À part la relation sexuelle de la nuit du dimanche, du samedi à dimanche, réunir deux corps mous, flasques, sans aucun attrait, la chose est faite sans joie ni grande envie. Il n'y en a pas d'autre rapport intime dans la journée. Chacun se regarde dans le blanc des yeux avec ennui et n'ose pas se dire vivement lundi, même si l'on va faire un travail qui peut être ennuyeux. Le dimanche, si on va faire un tour, on emmène avec soi son ennui. Pour le chômeur, le dimanche est aussi un jour pas comme les autres. C'est le seul jour où il ne peut pas se sentir obligé, pour faire plaisir à la société, de chercher du travail. Il se sent plus libre. Libre vis-à-vis de lui-même. Il n'a pas honte de feignanter et de cette société qui lui dit constamment de chercher du travail et qui ne lui en donne pas. Fait en sorte à ce qu'il n'en ait pas. En fermant les entreprises, en interdisant à ceux qui ont un certain âge de travailler. Alors, le pauvre chômeur, enfin celui qui veut travailler, s'entend dire « Cherche du travail, cherche du travail !» Il a peur que derrière son dos, on le traite de feignant. C'est l'insulte la plus dégradante pour lui et la plus répandue. On lui dit « ça » et on fait tout pour qu'il ne trouve pas du travail. Pour lui, le dimanche, il a bien mérité. Il faut qu'il se repose de toutes les humiliations qu'il a eues durant toute sa semaine. Humiliations et déceptions. Il veut que le dimanche durera toujours. Pour les vieux, le dimanche, c'est la solitude. La femme de ménage ne vient pas, ni l'infirmière. Les magasins sont fermés, les voisins partis. Il n'y a pas les feux de l'amour, d'Éric, question pour un champion, donc pas de télévision. Si l'on veut sortir un peu, il n'y a pas de Karl dimanche, ou très peu. Comme les gens fatigués, il faut un quart pour rentrer. La famille ne vient pas les voir le dimanche. C'est jour de sortie. Et puis, elle ne vient que très peu dans la semaine. Une heure à peine, au jour des repas. Cela donne du travail aux vieux pour préparer le repas. La fatigue, le bruit, les conversations qui ne racontent rien. Et après cette visite éclair, qui a à peine duré une heure, il faut tout ranger. Finalement, on préfère ne pas les voir. On se plaint de ne pas les voir, et lorsqu'ils sont là, c'est le tremblement de terre. On aime mieux sa femme de ménage et son infirmière. Quelquefois un ami qui vient discuter en prenant le café. C'est moins bruyant. Et on parle de la même chose, des douleurs, des nouvelles du temps qui passe, du quartier, des voisins morts et vivants et de ses jeunes. On aime aller chez le pharmacien. Ça sent bon et on est reconnu. On est sûr que l'on vous croit lorsque vous êtes malade. On rencontre aussi des gens comme vous. Et chacun parle de ses maux. Aller chez le médecin, ce n'est pas drôle. Il faut un rendez-vous pour ne pas être en retard, être propre, des vêtements propres. Chez le médecin, il faut se déshabiller, s'habiller. Il faut faire des mouvements. Refuse de vous prescrire des médicaments qui pourtant vous faisaient du bien durant des générations. Il y a aussi la visite du kiné. C'est pénible, mais l'on se sent mieux après. Il y a les courses. Aussi, il faut y aller tôt. Le vieux veut toujours faire ses courses tôt, parce qu'il a peur de la foule. Faire le marché, c'est pénible. Il faut se faufiler avec son caddie et sa canne. Le supermarché, c'est mieux. Moins cher, mais loin. Peu commode pour y aller, il faut y aller très tôt aussi. Ces petites choses font la vie de la personne âgée. On s'est habitué à cette vie, à ses malheurs. On a fait ses petites joies, faute de mieux. On aime à dire ses ennuis physiques, maladies, pour voir si les autres ont les mêmes. Et puis, ça vous permet, enfin, ils ont l'impression, c'est de faire partie de la société en disant toutes ces dégradations physiques à ceux qui ont les mêmes ennuis qu'eux. On vous croit, l'on compatit pour vous, l'on vous aide. Sans cela, la personne ne s'intéresserait pas à vous, ne vous demanderait pas de vos nouvelles. Mais en cherchant à comparer ces bobos aux vôtres, les gens s'intéressent à vous et vous parlent. La contrainte d'une infirmière, d'une femme de ménage devient quelque chose d'agréable. Une visite quotidienne avec qui l'on peut parler, et vous avez l'impression qu'on s'occupe de vous. Toute votre vie, vous n'avez pas eu de domestique par manque de moyens, et maintenant vous en avez. C'est très agréable. Et vous en appréciez les avantages. Vous êtes quelqu'un. Vous avez chez vous qui s'occupe, une personne qui s'occupe de vous. Et qui est à votre ordre, qui est à vos ordres, et qui est, et vous êtes prêt à critiquer ce qu'elle fait, etc. On vous a donné le service de personne parce que vous êtes dégradé, et ce service s'est transformé, ce mal s'est transformé en bonne chose, etc. Malheureusement, toutes ces choses, ces petits plaisirs, le dimanche, le vieux n'en a plus. Plus d'aide, plus de transport, plus de magasins, plus de télévision, ni d'amis. Le dimanche, il s'ennuie enfermé chez lui. Les jeunes aussi s'ennuient le dimanche. Malgré eux, le collège leur manque. L'école n'est plus un lieu de rencontre, n'est plus et plus un lieu de rencontre, de drague, que d'enseignement, de culture. On se fait des potes. On parle musique, pub, filles, et il y a des blagues, bien entendu, sur leur téléphone portable. On rit de n'importe quoi. On a un ami, des Lolitas, habillées et maquillées dès l'âge de 10 ans, qui sont prêtes à toutes les avances. Et le dimanche, le jeune n'a plus tout ça. Il a ses parents et sa petite sœur ou sa grande sœur, qui est désirable, mais c'est sa sœur. Ou un petit frère, cucu, chiant, parce que plus petit que lui, lui c'est un grand, l'autre est un petit merdeux, ou il a un grand frère, con, parce qu'il est plus grand que soi. Donc, le jeune s'ennuie le dimanche et ne souhaite que sortir. Mais des fois, il ne peut pas, parce que la vieille tante qui le prend pour un bébé vient. Et puis, c'est une vieille, donc une conne, et qui ne lui donne même pas du fric. Quant au pépé, lorsqu'il vient, il est sourd, sale, bave, mange lentement, et ne comprend rien à la vie actuelle. Il lui demande si ça va bien l'école, s'il est comme s'il est un gosse. Il croit que l'école, c'est un... pour apprendre le calcul, le latin. Il est con, le vieux. On n'a pas le temps d'apprendre. Il y a les potes, le téléphone, la musique et les filles qui connaissent des tas de choses pour vous détendre et vous apporter le plaisir. Et oui, le jeune lui aussi a plusieurs vies, celle du collège et du lycée. Il est un Cliff, un Jeff. On aime bien ce genre de nom. À la sortie des écoles, on crie toujours ce genre de nom. Là, on est un homme. On peut faire ce que l'on veut, avec qui l'on veut. On est quelqu'un. Vous avez des potes et des filles. Vous vous appelez plus ni Bernard, ni Jean-Pierre, ni François. Vous êtes Jeff. C'est tout de même quelque chose, tout de même. C'est pas comme à la maison. À la maison, comme l'on dit, donc chez les parents, vous redevenez Jean et non Jeff ou Denis. Et l'on vous traite comme un gosse. Alors vous boudez et attendez de retrouver votre autre vie. Par contre, vous redevenez le gentil garçon pour demander votre argent de poche pour dépenser son nom de Jeff. Mais s'il n'y a pas d'argent de poche, on ira faucher dans le supermarché multiculturel jeune avec ses potes. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? On ne se pose plus cette question. On est comme ça. La seule ligne de conduite, c'est le plaisir. Des plaisirs, des plaisirs. Jeter tout ce qui vous gêne et prendre tout ce qui vous apporte du plaisir. Et par n'importe quel moyen, et l'on jette le reste. C'est simple et ça ne complique pas la vie. C'est nature. Dimanche à vide semble nu. Lorsque les gens sortent, les quelques personnes sortent, elles semblent s'ennuyer. Certains essayent de sortir de la ville, prennent la voiture ou les transports en commun. Mais même en quittant la ville, on s'ennuie. On s'ennuie. Et puis, en temps de crise, il y a de moins en moins de gens qui quittent la ville le dimanche. Tout le monde sait que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, à cause de la télévision qui nous rase avec ça, depuis des années. La semaine, il y a aussi des messes. Des messes, mais là, c'est surtout des messes qui sont faites pour des gens qui croient vraiment. On le sait, les gens savent qu'il y a des messes à cause des cloches qui sonnent. Parce que la plupart des gens ne vont plus à la messe. Ou il n'y a que quelques vieilles personnes, des solitaires, à visage triste et gestes lents. regardant la sortie de la messe de 11h le dimanche. Une église, un quartier populaire, du premier arrondissement en bande défense de la Croix-Rousse. L'église se trouve dans une rue étroite et sale. Elle n'a pas vraiment de style, disons 19e. Devant l'entrée, il y a des escaliers. On sort de l'église. De vieilles personnes qui ont des difficultés à descendre les marches. Ils sont habillés proprement et de couleur sombre. Les femmes ont des sacs à main. Sortent de l'église quelques hommes, femmes, seuls, qui se dépêchent de rentrer chez eux. Une mère de famille avec ses enfants. Cela fait en tout une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes qui sont allées à l'église par habitude pour rechercher du réconfort, pour se dire que l'on est mieux que les autres par orgueil. Ce sont des gens qui ont besoin d'être soutenus pour vivre. La messe leur a-t-elle apporté ce qu'ils souhaitaient? La force, la paix. Pour beaucoup, rien, parce qu'ils ont entendu des choses plates, sans fougue, ni force. Ils ont beau essayer de se concentrer, de s'accrocher, mais il n'y avait rien. Une cérémonie qui est plate, sans fougue, ne peut apporter que l'ennui. Les prêtres, en simplifiant la messe, en la rendant anodine, ont effacé sa force. Ils ont mis l'homme devant Dieu et l'homme se retrouve seul face à lui-même. Donc sans réconfort. Si l'on veut faire simple, il faut que cette simplicité soit grande, noble. Pas qu'elle se transforme en néant. Les catholiques n'ont pas réussi à rendre leur simplicité grande et noble, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus secouer les hommes. Les fidèles sortent de la messe sans n'avoir rien ressenti, même pas une lueur d'espoir. Les prêtres demandent trop aux hommes. Ils veulent qu'ils trouvent en eux-mêmes, sans l'aide des symboles, la chaleur de la foi. Et la religion les guidera que par des paroles simples et des gestes banals. Ceci pour prouver que la religion est près des gens et des pauvres. Mais même les pauvres cherchent dans la religion la force et non la douceur, la grandeur et non la banalité. Quelque chose d'autre que leur vie. Ils ont besoin de se retrouver face à un Dieu puissant, lumineux, et à des serviteurs pleins de fougue religieuse. Il faut aussi une intelligence, une compréhension au-dessus de la moyenne, pour voir dans la banalité de l'Église une foi qui puisse vous aider à vivre. Le prêtre, en banalisant, simplifiant les cultes, ont cru s'approcher des simples et des pauvres. Ils sont bien au contraire approchés des gens cultivés, au-dessus de la moyenne. Les gens simples ont besoin de symboles simples qui comprennent d'une façon directe au premier degré. Ils ont besoin d'orgue, d'une église fastueuse pour prouver que Dieu est grand. Les personnes plus cultivées, au-dessus des autres, comprennent d'un côté simple qu'il y a un Dieu qui se veut simple pour être près des hommes. Parce que les personnes sont dans l'ensemble des gens qui voient au premier degré, il faut que pour le plus grand nombre, revenir au culte plus cérémonieux. Le petit nombre sort de l'église. Ils sortent comme ils sont rentrés, sans bouleversement dans leur âme. Pourtant, ils sont entrés en le souhaitant, peut-être la prochaine fois. Ils se dépêchent de rentrer chez eux parce qu'il est l'heure de leur repas et il faut bien continuer à s'ennuyer. Sort de l'église un jeune homme dans les 20 ans, de taille moyenne, mince, cheveux châtains clairs qui ondulent. Son visage est très doux, porte un blouson de cuir marron clair, une chemise blanche et un pantalon gris. Puisque c'est notre héros, suivons-le. Il entre tranquillement chez lui, habite rue Bouteille, une rue qui est un peu plus bas, près de la place Satonnet, en dessous de la rue Terme. Pour y aller, il passe par des rues lugubres, étroites, sales, tristes, avec des immeubles délabrés, la façade sombre, des graffitis et affichages sauvages. Les boutiques sont pour la plupart fermées et abandonnées. Ça sent mauvais. On entend de la musique exotique. Les enfants courent dans les rues. Les clodos avec des sacs en plastique sont assis devant les allées. Pour eux, le dimanche n'existe pas. Le jeune homme, en les voyant, se dit qu'il a de la chance, lui, de ne pas être comme eux. Il aimerait les aider, mais comment ? Enfin, il arrive rue Bouteille. Cette rue, je ne m'avais pas à vous la décrire comme elle est maintenant, mais comme elle était dans les années 1980. C'est un des privilèges de l'auteur de décrire le décor comme il l'entend. La rue n'est pas très grande. Elle va de la place du Sergent Blantan à la rue Saint-Vincent. Elle est petite, étroite, faite d'immeubles lépreux. J'y ai une vieille boulangerie, genre 1950, un restaurant exotique où personne ne rentre, un bon lait et rien de plus. La chaussée est pavée. Le jeune homme entre dans l'allée d'un immeuble, ou plutôt le passage d'un immeuble, le numéro 5. Immeuble lépreux de 3 étages. Devant l'entrée de cet immeuble, il y a, je l'ai oublié, un café arabe. Le passage n'a pas de porte. C'est un passage noir. On n'y voit rien. Il y a des boîtes aux lettres dépareillées. Ça sent mauvais. Des escaliers à gauche, encore plus sombres que le passage. et au bout du passage, ça donne à une cour. Le jeune homme va jusqu'au bout du passage et se trouve dans une cour toute petite qui est entourée d'immeubles séparés par eux par un mur. Cour pavée avec un petit arbre rabougri. Au fond de la cour, il y a une petite maison sans style d'un étage. Il faut monter un perron pour accéder à l'entrée. Le jeune homme va à la maison et va ouvrir la porte, porte marron, pour entrer dans l'allée. L'allée est étroite, ça sent la poussière. Une porte à droite qui donne à l'appartement du rez-de-chaussée. Des escaliers de bois et une rampe. Les escaliers n'ont pas été cirés ni lavés. Ils sont remplis de poussière. Lampe au plafond. Le jeune homme monte à l'étage. Le palier a deux portes, l'une en face de l'autre, et au milieu une fenêtre d'allée. Il va à la porte droite, porte marron. Il y a une plaque sur la porte qui est marquée dessus, Vincent Leroy. Ouvre la porte. Petit couloir avec une fenêtre. Vincent quitte son blouson. Et le met sur le porte-manteau. Longe le petit couloir. Et là, sans porte, se trouve dans le séjour. Pièce assez grande, avec un évier chauffe-eau. Il n'a pas eu de meubles à acheter. Les meubles sont disparates, gens sans style. Il y a le coin cuisine et coin détente. Le coin détente a une chaîne. Ce décor banal ne manque pas de charme. Pourquoi on ne sait pas? Peut-être parce qu'il a été patiné par la vie des différents locataires. Il a une arme. Il arrive que certains intérieurs décorés avec goût manquent d'arme. Il y a en plus de cette pièce une chambre sans fenêtre, avec un lit à deux places, se trouve une armoire à une porte sans glace, une lampe de chevet. Et il y a, en passant dans la chambre, il y a le WC sans le dos. Vincent va se préparer son repas. C'est très simple. Je te prépare du thon, des tomates et une pomme. Il aimerait manger plus, mais ne le peut pas. adolescent, dans l'après-midi, sort de chez lui pour aller voir son oncle. Son oncle est le seul membre de sa famille. Il habite rue Pierre-Blanc, triste rue aussi misérable que les autres rues de ce quartier détestable qui est un repère anarchique d'illuminés et traîne savates. Son oncle habite un vieil immeuble lépreux de 3 étages. Vincent entre dans l'allée qui est ouverte. Une odeur désagréable, du pipi de chat, poussière, poubelle, urine et tant d'autres choses qu'on aimerait ne pas décrire. L'allée est sombre, les boîtes aux lettres dépareillées, et il y en a même qui sont défoncées, des saletés à terre, seul carrelé noir et blanc, petit escalier de pierre usé aussi, et une rampe de fer peint en vert, bouteille. Sous les escaliers, il y a des poubelles dégueulasses, et la porte qui donne aux caves. Une lampe est pendue au plafond avec un fil. La minuterie est cassée. Vincent prend les escaliers en faisant attention sur quoi il marche. Entre les étages, il y a une fenêtre qui donne à une cour. Les vitres n'ont jamais été faites. Le palier a 2 portes d'appartement qui se font face. Entre les 2 portes, il y a des petites fenêtres qui donnent sur les WC. Comme ça, les WC empestent l'allée. Il va jusqu'au 2e étage. Son oncle vit seul comme lui. Vincent sonne à la porte de droite. La porte s'est ouverte et apparaît un petit homme tout maigre, la tête osseuse, cheveux gris épais. Il ressemble à un personnage de dessin animé. Il a de grands yeux qui s'écarquillent. Vieux pull, marine et pantalon gris. Il ne fait pas propre. Le vieux regarde Vincent et lui dit « Ah, c'est toi !»« Bonjour Pierre Masque, tu te déranges pas ?»« Non, entre !»
Il entre.
Le vieux ferme la porte et donne de grandes tapes à Vincent et lui dit « Je suis très heureux que tu sois venu me voir, mon Mimi !» Se soulève parce que Vincent, pour que Vincent lui donne un Mimi. Vincent l'embrasse sur les 2 joues. Ensuite, pour prouver son affection, l'oncle lui donne des coups de tête sur la poitrine et se plaque contre lui. Vincent se sent gêné. parce qu'il ne sent pas très bon. Odeur de moisissure et autres. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La lumière, l'intégrale. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.